entrez.
Un conseil, madame, un conseil, monsieur.
Le mardi.
Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez...
de la culture.
Car il faut manger, manger, manger les radis. Avant que ce soit les radis qui nous mangent. Il faut manger, manger, manger les radis. Et des tas de laitues et des tonnes de pissenlits.
Ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas. Bientôt vous serez amené à la salle d'accouchement où votre médecin vous attend.
Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Le bruit des bisous.
Salut Vincent.
Salut François.
Pourquoi nous sommes là?
Mais parce qu'on a envie de vous embarquer, vous auditeurs, une fois par mois dans les dessous d'un lieu culturel. Et vous montrer à travers plein de rencontres ce à quoi le public a jamais accès. On commence pour cette première émission avec une grande institution théâtrale.
Le Centre Dramatique National des 13 Vents.
Exactement mon cher François. Mardi backstage, c'est parti.
Mais c'est quoi au juste un centre dramatique national ?
Comme son nom l'indique, c'est un centre dramatique, c'est-à-dire qu'on y fait du théâtre, et j'allais dire exclusivement du théâtre. Et c'est très important, c'est une chose sur laquelle les gens ont beaucoup envie de revenir, et moi c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, parce que je crois que la pluridisciplinarité, il faut qu'elle se fasse dans les centres dramatiques nationaux depuis le théâtre. Et non pas dispersés à tous les vents.
Un centre dramatique, c'est un centre de création d'art dramatique. C'est dirigé par un metteur en scène, à la différence des scènes nationales qui sont dirigées par des programmateurs.
Ça change un peu tout, c'est-à-dire que c'est parce que au cœur même de l'établissement, il y a donc un artiste qui doit imaginer ses projets, et donc que ses projets artistiques forcément font vivre la maison d'une autre manière. Dirige le parcours de la maison. C'est aussi un lieu, puisqu'au cœur il y a un artiste, qui a priori diffuse plus dans le territoire. Le fait simplement que dans les centres dramatiques on fait des séries, on joue pas, c'est pas une représentation. Et ça, le public s'en rend pas bien compte, mais ça change beaucoup les choses. Ça change complètement le rapport au travail, le rapport au travail de toute une équipe. De relations publiques, de communication, que pas de, à chaque fois de travailler sur un coup, où la chose elle est si vite passée que finalement sur le territoire ça s'ancre pas. C'est pas un lieu de diffusion comme un autre, c'est pas un lieu où on devrait pouvoir venir comme au multiplex de l'Odysseum.
Zoubi zoubi zou. Zoubizou, bisou, zoubizou, zoubizou, le bruit des bisous.
On va passer par la salle.
Visite guidée des coulisses avec Gérard Espinoza, dit GG, le directeur technique du théâtre.
On est dans le couloir des loges, là.
Toute personne a dans son imaginaire la loge de l'artiste avec toutes ses ampoules et les choses comme ça.
Et vous allez voir. Il n'y a pas les petites
ampoules. On en est assez proche sinon.
Ouais. Il y a un miroir en tout cas, un grand miroir, et puis effectivement de l'éclairage pour qu'il puisse bien se voir, pour se maquiller, et puis pour s'habiller, pour se costumer. Les douches dans les loges, douches très importantes. Dans le Shakespeare, par exemple, dans le Richard III, David Ayala, qui joue Richard, s'enduit d'argile pendant une scène. D'argile, et sur le plateau. Il arrive sur le plateau enduit d'argile, et c'est le pauvre Tom qui Ah non, c'est pas dans, dans Richard III, c'est dans Le Roi Lear, c'est le pauvre Tom que Lear retrouve dans la forêt. Et donc il arrive sur le plateau enduit d'argile et il se met par-dessus des plumes, des feuilles séchées. Enfin bon, il ressort du plateau, c'est un monstre dégoulinant qui est obligé de se doucher tout de suite. Quoi.
D'accord.
Et les douches sont super sales, pleines de plumes et
d'argile.
Voilà. Et...
Ouais. Mais encore chez nous, ça va, mais quand on est en tournée, on prévient le théâtre en leur disant attention, on n'est pas des gros dégueulasses, mais il y a des contraintes techniques dans le spectacle. Quoi. Les portes, il y a beaucoup de portes dans les théâtres.
Hein. Ça, j'imagine que c'est lié à des normes de sécurité.
Ouais, c'est les portes coupe-feu, donc ouais. Je fais la guerre d'ailleurs aux techniciens qui ont tendance à les coincer avec des cales en bois. Voilà. Je passe derrière, je ramasse les cales en bois, je vais les mettre à la poubelle. Bon, voilà, des loges encore. Là, il y a un petit bureau pour les régisseurs. Donc là aussi, la situation du bureau est importante près de la scène. Il y a des retours où ils peuvent entendre ce qui se passe sur le plateau. Voilà la salle.
Et nous voilà dans la salle. Combien de places ?
Alors, il y a 482 places, exactement. Et là, on est dans une configuration particulière, c'est-à-dire que sous le plateau, normalement, il y a encore 5 rangs avec une centaine de places. Ici, là, le plateau s'enlève, oui. Et le premier rang de spectateurs, normalement, est en contre-plongée par rapport au plateau. Alors qu'ici, dans cette configuration-là, il est avec les pieds sur le plateau.
Est-ce qu'il y a encore un rideau de fer ici
dans cette salle-là, non, parce que c'est une salle qui est considérée comme... elle a une appellation de scène-salle intégrée. Et dans ce type de salle-là, le rideau de fer n'est pas obligatoire.
C'est le rideau de fer, pour le reste, était obligatoire. C'est quoi ? C'est juste après la fin de la représentation, on bloque tout.
Oui, même avant la représentation, puisqu'il y avait obligation, il y a obligation dans les théâtres, à l'opéra par exemple, de faire un essai. Les pompiers arrivent avant la représentation, une demi-heure avant à peu près, et ils font un essai de rideau de fer, voir si le rideau de fer fonctionne, avant chaque représentation. Et normalement, cet essai doit se faire en présence de quelques spectateurs. Donc on devrait normalement laisser rentrer quelques spectateurs dans la salle et faire l'essai de rideau de fer.
Là, on a tous les cintres baissés.
Alors, c'est une vérification. Oui, il y a toutes les perches qui sont au sol. Il y a une entreprise, l'entreprise Clément, là, qui nous fait la révision annuelle chaque année avant le début des représentations. On doit faire une révision complète de toutes ces accroches qui sont quand même des choses qui sont suspendues au-dessus des comédiens. Voilà, qu'on doit vérifier. Quoi.
Là, tout est automatisé. Il n'y a plus de force physique qui intervient.
Si. Il y a une partie des perches qui sont électriques, donc toutes celles qu'on voit là au plateau actuellement, donc où il y a un moteur. Et puis on a 16 perches manuelles, ce qu'on appelle des perches manuelles contrebalancées, et qui sont un système de contrepoids. On met sur un contrepoids qui est en cheminée l'équivalent du poids qu'on met sur la perche, de manière à ce que ce soit équilibré et qu'on puisse la faire fonctionner normalement avec un gars qui tire sur la commande, quoi.
Donc on a encore besoin de marins, en fait.
On a encore besoin de marins, oui. Heureusement.
On a toujours la superstition des marins.
Ah ben oui, il y a toujours les termes qui sont imprononçables. J'ai parlé de commandes pour le fil qu'on tire là-bas en cheminée, quoi.
Ouais. Ça a moins de portée dans un théâtre moderne que dans un théâtre à l'italienne.
Ah non, moi je trouve que la tradition se tient, quoi. Ouais. Par rapport à ça, par rapport à la couleur verte, des choses comme ça. Si, c'est à l'esprit de chacun en tout cas. Après, chacun vit avec ses superstitions et ses peurs, quoi. Hein. Voilà. Tout ce qui nous entoure vient quand même de la naissance du théâtre en Grèce et tout ça. Enfin, et on retrouve tous ces mots qui ont traversé les siècles. On les retrouve encore maintenant, quoi. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis rentré dans le boulot, c'est quelque chose qui m'a fasciné, j'ai lu plein de bouquins là-dessus pour savoir comment ça s'était construit. Non, c'est quelque chose, pour moi, quelque chose d'important, quoi.
La configuration de ce théâtre est assez agréable au niveau technique, justement, dans ce rapport plateau et arrière-plateau.
Oui, c'est D'autant plus qu'on l'a quand même perfectionné au cours des années, et avec la grande rénovation qu'on a faite en 2000. Voilà, on a perfectionné l'outil, on a rajouté des perches électriques, on a truffé le plafond technique d'accroches, justement, pour nous aider. Et c'est, maintenant, je crois que c'est un outil qui est assez... bon, dans la limite de ses possibilités, hein, puisque c'est pas un théâtre très grand, il n'a pas de hauteur. C'est-à-dire qu'on ne peut rien échapper en hauteur. Normalement, au théâtre, les décors partent par le ciel, par le haut. Hein. À l'opéra, par exemple, il y a les toiles d'opéra qui fonctionnent comme ça. Ici, pas du tout. On n'a que 7 mètres de hauteur. Et donc, la lucarne que le spectateur voit dans la salle, c'est l'espace qu'on a. Quoi. On n'en a pas plus pour changer de décor. Quoi.
Donc ça part à cour et à jardin.
Ça part à cour et à jardin. Il y a plein d'astuces après pour renouveler le décor. Voilà, c'est une autre manière de travailler.
Mardi, backstage.
Où sommes-nous, François ?
Nous sommes rue de l'Industrie à Montpellier, devant l'atelier de décor des 13 vents, où nous avons rendez-vous avec François Guy Desbuttes, le responsable des lieux.
Attention aux oreilles.
Moi, j'ai commencé à la Comédie de Saint-Étienne juste après Jean Dasté, c'est-à-dire qu'il faisait encore des spectacles. Et là, il n'y avait qu'une équipe technique... permanente. Donc on faisait les décors à l'ancienne et surtout on suivait nos décors. Donc de la construction jusqu'au montage sur le plateau, les répétitions et la tournée, c'est nous qui le faisions. Comme on est un peu paresseux, on faisait des décors légers parce que c'est nous qui allions les porter. Mais par contre, on savait que nous, on n'allait pas les casser. Parce qu'on faisait gaffe à ne pas les casser. Donc c'est vrai que les techniques ont beaucoup changé là-dessus. Moi, je pourrais faire des décors plus légers, mais je ne le fais pas parce que je dis qu'ils ne tiendront pas le coup. Hein. Parce que c'est pas que je n'ai pas confiance aux autres, mais ceux qui vont peut-être l'utiliser, je ne les connais pas. Et puis, il ne faut pas leur livrer quelque chose qui puisse être fragile. Quoi.
Et eux, ils n'ont pas fait le décor.
Non. C'est-à-dire que mon rôle, il s'arrête le jour où je monte mon décor sur le plateau. Avant la première, au début des répètes. Et après, quand il est démonté, même, c'est plus mon équipe qui fait les tournées. C'est soit il y a une personne du Théâtre des 13 vents qui va, si je pense qu'il y en a une, il y a des régisseurs, mais les sorties de camions et tout ça, c'est vraiment plus nous qui le faisons. Quoi. Donc, effectivement, il faut donner un matériel... à des gens qui sont des professionnels, mais on leur demande plus les mêmes choses, on leur demande d'aller vite, on leur demande, il faut faire quelque chose qui soit facile à monter, qui comprennent, ce qui n'était pas toujours le cas dans le temps, quand on faisait des choses. Ouais, on avait une économie différente, une économie de notre travail qui n'était pas la même. Quoi.
Quels sont tous les corps de métier qui sont convoqués pour
faire... Bon, en gros, chez nous, il y a des menuisiers. Moi-même, je suis ébéniste. Il y a des menuisiers, des serruriers qui sont l'équivalent pour le fer, hein. C'est-à-dire les métalliers, si vous voulez. Et puis les peintres décorateurs. Et puis bon, il y a tapissiers, mais ça, c'est... il y a très peu de tapisseries. Puis il faut savoir un peu tout faire. On fait de la résine, des choses comme ça. On invente des choses. Mais c'est ça les corps principaux. Et puis c'est vrai que là, le métier a peut-être aussi évolué. C'est-à-dire quand je suis rentré, c'était des gens qui venaient de l'industrie, qui avaient rencontré Jean Dasté, par exemple, et puis qui étaient rentrés dans son équipe. Mais c'était des serruriers, des chaudronniers, des menuisiers, des gens qui avaient fait des portes et tout ça. Et maintenant, il y a des formations, disons, intégrées où les gens, des écoles de théâtre ou des théâtres nationaux qui ont des écoles, et ils font tout, quoi. Ils ont une spécialité, mais ils voient un petit peu tout et ils sont constructeurs. Alors que nous, avant, on était menuisier ébéniste, et puis tout d'un coup, par hasard, on rentrait dans le théâtre par chance.
Vous êtes combien ?
Ici, on n'est plus que deux. Donc moi je fais les études, quand je peux, quand j'ai un peu de temps libre, je descends. Et puis j'ai un de mes collègues qui est serrurier, mais qui aussi sait tout faire, quoi. En gros, moi je suis là-haut et lui il est en bas. Et puis dès qu'il y a un décor à faire, ben, on prend une équipe et puis on gère ça.
Quand le spectacle finit de tourner, le décor, qu'est-ce qu'il devient ?
Moi c'est un des intérêts du métier. Si je dis dans une société où on peut brûler un décor après qu'il est servi, tout n'est pas économique. Eh bien, on le jette, on le brûle, parce qu'il ne peut pas servir à autre chose qu'au spectacle pour lequel il a été fait. Donc il y a des éléments, bien sûr, si vous avez des praticables, mais jamais un praticable comme celui qu'on a fait pour Richard, jamais il pourra servir pour un autre spectacle. Donc comme ça coûterait extrêmement cher de le garder pour rien, donc... Moi, je sais, à Saint-Étienne, on gardait des décors, on les gardait 5 ans parce qu'ils étaient tellement beaux qu'on ne voulait pas les jeter, mais en fait, c'était de la bêtise parce qu'ils appartiennent au spectacle. C'est une époque, quoi, dans le théâtre, et après, et puis, c'est pas très beau de très près. Hein. Vous n'allez pas le mettre dans votre salon ou des choses comme ça. Donc, on le détruit, on le donne, hein, s'il y a des parties qui peuvent servir, mais en général, il est détruit. Ouais.
Vous, à titre personnel, est-ce que vous aimez encore le théâtre ?
J'aime beaucoup mon métier, c'est-à-dire c'est un peu différent. Et j'aime le théâtre, mais je deviens de plus en plus dur. Et je me demande, j'y pensais, là, en revenant de vacances. Et ce que j'aime bien dans le théâtre, c'est que ça me fait toujours me poser des questions. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que l'essence du théâtre, est-ce que c'est les comédiens, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette ambiance qui n'est pas toujours facile, hein, entre les gens, parce qu'on a des stress, mais ouais. Alors, la question, c'était quoi ? Est-ce que j'aime ça ?
Vous aimez encore, oui.
Je crois que je ne ferai pas autre chose. Ouais. Mais aimer, c'est aussi... le théâtre, c'est une question. Aimer, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas non plus. Mais c'est bien, ouais. Je prends mon pied, ouais.
L'opéra, vous avez découvert ça ?
J'ai découvert, ouais. Ce qui est complètement différent, ouais. Bah, je fais pas... C'est pas... Mon rapport au théâtre n'est pas du tout le même, parce que... L'opéra, je fais pas. C'est vraiment une maison qui a une personnalité. J'en fais pas totalement partie. Je le sens ça. Mais en même temps, moi, j'adore la musique. Dans une famille où on adore la musique, mais on avait un petit recul par rapport à l'opéra et je l'ai vraiment découvert. Et surtout, si j'aime presque tout dans l'opéra, il y a le baroque, par exemple, j'adore. Je trouve ça bien. Ouais. Et puis le décor, c'est un petit, c'est pas du tout pareil. Ça peut être, c'est un peu être kitsch. Il n'y a pas du tout cette espèce d'esthétique de la pauvreté qu'il y a dans le théâtre. Quoi. Et il y a des choses, tu te dis, mais c'est affreux. Et puis on le fait en s'amusant. Et puis en fait, c'est super. C'est trop, trop drôle. Ouais. Thank you.
Benoît Jouessel,
administrateur.
Ma fonction, accompagner et laisser rêver les artistes et faire en sorte que leurs rêves deviennent réalité. Très difficile puisque l'argent étant le fer de lance de l'action, essayer de faire rentrer dans nos budgets ce qu'ils ont envie de faire.
Toi, tu as suivi l'aventure de Jean-Claude depuis très longtemps finalement.
Oui, j'ai été engagé par Jean-Claude Fall au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, qui est un centre dramatique équivalent au centre de Montpellier, le centre dramatique de Montpellier, en 91. Cela fait 18 ans que nous sommes un couple inséparable.
18 ans que je t'ai à l'œil, t'es à Bagneux dans les feuilles. Je vais jamais te voir, j'aime pas ça, mais je te joue de l'harmonica. T'es dans ma peau, mes petits ailes, un fil débranché, plus d'air. Dans des camions à gasoil qui tapent dur sous les étoiles.
Aujourd'hui, on est plus de 50 personnes équivalent temps plein. Il y a 35 permanents dans le théâtre, dont 6 comédiens permanents. C'est important puisqu'on est... alors là, pour le coup, on est le seul théâtre à avoir autant de comédiens permanents en CDI. Il y a certains centres dramatiques qui en ont, au nombre de 1 ou 2, mais d'en avoir 6, nous sommes le seul. Au-delà de ces 35 personnes, ce sont des intermittents qui sont engagés soit à l'atelier de décor, soit à la technique, soit des artistes pour toutes les productions que nous gérons. Et il y a beaucoup de métiers qui sont inconnus du grand public. Et il y a beaucoup de métiers qui sont inconnus des lycéens et des étudiants qui n'imaginent pas qu'un jour ils pourraient participer à la vie d'un théâtre à tel ou tel poste. Je pense à une réflexion un jour d'un jeune qui faisait électricité dans un LEP et qui visitait le théâtre, qui tout d'un coup a réalisé que le métier qu'il était en train d'apprendre, eh ben, il pouvait peut-être se projeter de le pratiquer, avec un complément spécifique au théâtre, mais de le pratiquer au sein d'une structure comme la nôtre. Alors tous les métiers que vous pouvez imaginer artistiques, ça c'est assez connu parce que c'est visible, et tous les métiers plutôt invisibles, c'est les métiers administratifs, comptabilité, gestion de plus en plus pointue, on nous en demande de plus en plus, au métier de la communication, des relations publiques, et au métier technique, là il y a des métiers qui sont quelquefois moins connus, comme par exemple des coupeurs. Ça c'est un métier qu'on engage rarement, mais quand on fait des productions avec des costumes d'époque et avec beaucoup de figurants, eh bien on va engager un coupeur, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la coupe de tissu, donc qui analysera le projet du costumier, qui fera les plans et qui coupera les tissus pour que les couturières n'aient plus qu'à assembler les pièces. Voilà. Ça c'est très spécifique. On l'engage rarement, mais on peut très bien travailler dans un théâtre pour faire ça. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui se passe le soir sur le plateau. Je serais absolument incapable d'aller gérer une autre entreprise qu'un théâtre ou qu'une entreprise artistique. Ça ne m'intéresse absolument pas de travailler dans la journée et de ne pas aller au théâtre. C'est ce que je dis aux stagiaires quand ils viennent. Si le stagiaire, je ne le vois pas aller le soir au spectacle, je lui dis, fais autre chose. Tu ne peux comprendre ce que nous faisons dans la journée que parce qu'il y a représentation le soir. Voilà. D'ailleurs, on se retrouve souvent à rester le soir dans le théâtre, sans fonction obligatoire, mais uniquement pour sentir ce qui se passe, pour participer, pour comme source d'énergie pour repartir le lendemain.
Être spectateur, en fait, c'est ce qui nourrit ce travail de coulisses.
Oui, et pas uniquement chez moi. Quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai trouvé une chose absolument formidable. C'est que sur l'ensemble de l'équipe du Centre dramatique, il n'y avait que une ou deux personnes à ne pas aller au théâtre. Qu'ils soient comptables, à l'accueil, au ménage, ils viennent tous voir les spectacles du soir. Et je trouvais ça formidable qu'il n'y ait pas de gens qui se sentent comme ailleurs. Ils se sentent dans un lieu particulier et ils profitent de ce lieu pour venir voir les spectacles. Et ça, c'est d'une très grande richesse, puisqu'on parle de la même chose. Pour la petite histoire, j'avais reçu une demande d'une ANPE à Saint-Denis qui avait une nouvelle recrue à l'ANPE, et les nouvelles recrues doivent faire un stage en entreprise pour savoir ce qui se passe dans un lieu. Et donc, il m'avait appelé au théâtre en disant, voilà, est-ce que vous pourriez accueillir pendant 3 jours cette personne pour savoir comment fonctionne un théâtre. Et j'avais répondu, je suis d'accord, mais cette personne va venir en stage de 6h du matin à minuit, pendant 3 jours. La personne était extrêmement surprise, m'a dit que c'était absolument impossible d'imposer cette chose-là, et j'ai répondu, mais si cette personne veut savoir comment se passe la vie d'un théâtre, il faut qu'elle reste ce temps-là. Parce que le théâtre, il ouvre à 6h du matin, le ménage, l'entretien, et il ne ferme pas avant minuit, voire plus tard, avec la fermeture des techniciens, les démontages et autres. Donc si elle veut voir tous les corps de métier, il faut au moins qu'elle reste sur ce laps de temps.
Actrice, administratrice, dessinatrice, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs, j'adore. Regardez danser les gens. Et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Et je recoupe le son.
Le rôle d'administrateur tel que moi je le pense et je le fais le pratiquer, c'est toujours un rôle qui est derrière les artistes. Je n'aime pas me mettre en avant, pas parce que je suis pudique, mais parce que je pense que c'est pas notre rôle à nous. Nous, on est là pour accompagner une parole artistique, on est là pour accompagner des projets, pour accompagner des artistes, faire en sorte que qu'il y ait une rencontre entre leur travail et le public. Donc à nous d'aller trouver le public qui va pouvoir venir faire cette rencontre. Non, je ne me mets pas en avant. Voilà. Après, ce que j'aime le plus, c'est de faire ce travail-là. Alors c'est via des dossiers très très différents les uns des autres, de gestion, de fiscalité, de négociation avec les banques, avec les partenaires, avec les salariés, avec moi-même, et faire en sorte que ça se passe au mieux. Moi je me compare souvent à un équilibriste, entre accompagner les artistes, travailler sur un budget, et finir à la fin de l'année à zéro. Puisque notre but à nous, c'est pas mettre de l'argent de côté, c'est dès qu'il y a de l'argent, c'est de le remettre pour la création, soit en faisant plus de spectacles, soit en faisant mieux certaines productions.
Vous occupez principalement évidemment du travail de Jean-Claude Fall, mais il y a aussi le cas de compagnie que vous hébergez, et vous faites un travail d'accompagnement assez précis, même en termes de production et de diffusion sur ces compagnies.
Alors ça, c'est une mission que le ministère essaye de nous redonner, parce que c'était la mission première des centres dramatiques, avec la multiplication des compagnies. Dans les années 80-90, les subventionneurs voulaient que les compagnies aient des recettes propres. Donc ils subventionnaient les compagnies, en échange de quoi les compagnies géraient leur production et vendaient au théâtre. Et il était important dans les comptes que les compagnies puissent prouver qu'elles avaient des recettes propres. Et donc les centres dramatiques ne géraient plus, n'étaient plus producteurs délégués de ces productions, puisque c'était les compagnies qui le faisaient. Là, on est un peu en train de revenir différemment, et on nous redemande d'être producteurs délégués et de soutenir concrètement les productions. On le fait au cas par cas avec des discussions avec les metteurs en scène. On l'a fait en partie pour les Histrions, la grosse tournée des Histrions, 90 dates, 25 personnes en tournée sur toute la France. Là, pour le coup, dans une discussion avec la compagnie Tire par la Nappe, le centre était mieux équipé administrativement pour gérer et financièrement et logistiquement la tournée que la compagnie qui voyait en un an multiplier son budget par 5. Alors qu'est-ce qu'on offre à une compagnie quand elle vient chez nous? On a eu Jean-Marc Bourg, la compagnie Tire pas la nappe, et maintenant Julien Bouffier. On met à disposition des bureaux administratifs, la bureautique, tout ce qui permet à l'administration et à la communication de la compagnie de travailler, mais on met aussi à disposition des lieux de répétition, des lieux de construction de décors, d'ateliers de costumes, le plateau du théâtre à plusieurs reprises pour qu'il puisse créer et qu'en 3 ans, il ait le temps devant lui pour imaginer un parcours. Et à côté de ça, on lui demande de participer à toute la vie du théâtre, de venir avec nous aux réunions que nous appelons réunions de communication du mardi et de voir comment fonctionne un centre dramatique. Et suivant les compagnies qui ont travaillé en résidence avec nous, on a bien vu des points de vue très différents. Nordet, en 91-93, au TGP, a complètement utilisé ça comme un tremplin d'apprentissage de ce que c'était qu'un centre dramatique. Gérer une boutique de 25-30 personnes et d'accueillir d'autres spectacles et de regarder aussi comment on travaille avec d'autres compagnies. Je ferai le parallèle avec Julien, il a fait un peu le même parcours de participer complètement à la vie du centre dramatique et de se projeter, et on le voit aujourd'hui puisque Julien postule à la direction de centre dramatique, ce que d'autres compagnies n'ont pas fait tout de suite.
Julien Bouffier,
metteur en scène, directeur de la compagnie à des souris aimerées.
C'est une maison, ça fait longtemps que c'est une maison avec laquelle j'ai des accointances, des amitiés. Et du coup, depuis, il y a eu plein d'aventures ensemble, et jusqu'à l'aboutissement avec cette résidence de 3 ans, qui évidemment est une chose très enrichissante, puisque d'une part, c'est des moyens mis en place, hein, des vrais moyens, c'est pas... Jean-Claude et le centre dramatique ne donnent pas de l'argent juste pour une création, mais c'est vraiment une pochette financière importante qui permet et de créer et de structurer la compagnie et d'imaginer comment notre travail n'est pas seulement... Enfin, en tout cas, moi, c'est là-dessus que j'ai évidemment axé toute la résidence. C'est-à-dire que mon travail n'est pas seulement un travail de création, mais aussi un travail d'organisation, de médiation des spectacles, d'organisation de projets et d'une ligne directrice autour de tous mes projets. Et ça, il l'a permis bon, par l'argent, par des locaux, puisqu'on a notre bureau ici, voilà, super bien équipé, tout ça, enfin bon, comme des autres bureaux du centre dramatique. Et puis, on a à disposition l'atelier de décor, l'atelier de costume, et surtout toute l'équipe du centre dramatique qui bosse pour nous et avec nous, comme si elle bossait pour ou avec Jean-Claude. Donc c'est énorme. I'm an actor. I'm doing well. And I want things to be done by someone who's taking care of me. I don't even care for me. I just care about what you think of me. Come and get me. I'm protected. If you ever come late, better give me what I want. I'm addicted. It's growing strong. It's growing strong again. The consequences, I leave them all for someone else. Don't say I'm doing fine. I'm not even trying to. J'imagine que c'est difficile après 3 ans comme ça de penser à l'après, parce qu'on se retrouve avec juste bon, ses proches et on n'a plus tout à fait à disposition ce type de moyens. Enfin, dans un sens, l'après, c'est non, forcément finalement la
prendre pour toi la direction d'un lieu, dans un sens, parce voilà. que c'est vraiment cette préparation-là.
Ouais, c'est exactement ça, qu'en plus, il y a eu un parcours de la compagnie qui a fait que, comme je le disais, on était donc 6 ans en résidence à la scène nationale de Sète avant, donc petit à petit, on a cohabité dans des maisons de plus en plus grandes. Avant, c'était Clermont-l'Hérault, et le parcours en région, il y a eu un aboutissement avec la résidence au Centre Dramatique. Et que, vu que, voilà, ce que je disais, c'est-à-dire que mon travail, j'estime qu'il est pas, il est autant sur le plateau en répétition qu'avec le public, à la rencontre du public, dans l'organisation d'événements. Et la suite, est-ce que c'est si difficile que ça ? Pas vraiment, puisque de toute façon, je savais très bien avant qu'il y aurait un après, qu'il y a eu un avant, donc je ne vois pas pourquoi l'après, voilà. C'est juste qu'il va falloir l'imaginer, que je postule déjà pour des centres dramatiques, que ça a failli déjà se faire, que pour l'instant, il n'y en a pas d'autres vraiment en vue, donc là, sur l'année prochaine... C'est comment ça va continuer l'année prochaine, mais il y a quand même le festival hybride donc qu'on porte, que la compagnie porte et qu'on va continuer à porter indépendamment de notre présence au Centre Dramatique, puisqu'il y a d'autres structures qui nous soutiennent pour ça. En arrivant au Centre Dramatique, j'ai demandé à Jean-Claude, j'aimerais créer un événement, donc j'aimerais que tu me laisses une place pour la programmation. Et que je puisse organiser un événement complètement du début jusqu'à la fin. Et après moult réflexions, Jean-Claude a dit oui. Ensuite, on s'est dit bon, comment on fait, à partir de quoi, parce que moi j'avais des exemples nationaux, enfin qui pouvaient être les plusieurs festivals là qui avaient été organisés par la Ferme du Buisson en région parisienne à Marne-la-Vallée, que ce soit les Labomatiques, des trucs où c'était complètement sur l'émergence, ou des choses comme Temps d'Image qui étaient vraiment sur le rapport à l'image et à la transdisciplinarité. Finalement, on a fait un mix de tout ça avec Hybride. Fallait trouver la forme. Et en même temps, donc Jean-Claude a permis évidemment le fait qu'aussi ça soit entendu, puisque de le faire, évidemment, si on ne l'avait pas fait au Centre Dramatique, ça aurait une autre écoute, puisqu'il n'y aurait pas eu la machine Centre Dramatique derrière qui permettait d'arroser, quoi, qui est évidemment très 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 importante et qui est une équipe qui sait le faire. Le pari d'Hybride, c'est quand même d'être en relation avec tous les lieux, en partenariat avec avec beaucoup de lieux montpelliérains, pour créer une synergie, parce que c'est la moitié du projet, c'était ça, hein. Enfin, même le plus dur du projet, ça a été de regrouper des équipes ensemble, des théâtres, des lieux culturels, artistiques, pour se dire, bon, allez, on bosse ensemble pour un projet.
Mardi, backstage.
Hiroshima, mon amour, prochain spectacle que tu crées ici au 13 ans. La question de l'hybridation prend quelle forme sur le plateau ?
Sur Hiroshima, mon amour, il y a le travail musical qui me semblait extrêmement important, vu le souvenir qu'on a de l'oralité de ce film avec la voix d'Emmanuel Riva et comment elle chante le texte, comment elle... Il y a tout un tas de choses comme ça très 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 étonnantes. Je me suis dit comment nous on peut travailler ce rapport-là, la musique avec la langue de Duras. Et je me suis dit nous on va essayer de le pousser plus loin, ou en tout cas différemment, en l'emmenant vers la musique avec Dimonet, donc chanteur pop, pas du tout party mais pop, et de l'emmener sur ce territoire-là. Donc voilà, c'est d'emmener l'écriture de théâtre. Enfin, l'écriture littéraire vers ça. Et puis ensuite, y a tout le travail d'image, puisque moi, une des choses qui m'intéressait beaucoup dans Hiroshima, mon amour, c'était la part documentaire. C'était vraiment... je reviens toujours sur cette chose-là. Au départ, ce qu'on a demandé à René, c'était de faire un film documentaire. Et lui, il avait mis comme condition qu'il y ait un auteur avec lui. Qu'il y ait un auteur qui travaille sur le film avec lui. Et de créer une fiction. Et donc, ça a été Duras, finalement. Et je pense ensuite qu'il était tellement contraint, René, dans cet contraint. Il a rempli son cahier des charges, mais en le bâclant. C'est pas ça, parce que le film est très beau et c'est pas le problème. Hein, mais cette chose-là, ce côté documentaire-là, la problématique d'Hiroshima, il le balaye dans le premier quart d'heure, et ensuite il passe à autre chose. Il passe à l'histoire d'amour. Et que je pense que Duras, ce qu'elle écrit, est beaucoup plus politique que ça, et beaucoup plus sur les rapports humains qui... c'est pas juste une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire humaine qui raconte les histoires humaines et qui raconte les rapports que la société, je pense, occidentale, donc européenne, entretient avec le reste du monde. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Et du coup, on est allé à Hiroshima, on a pris des images de ça, qui viendront dans le spectacle. Et en même temps, il y a tout un travail, puisqu'il y a ce double support qu'est Hiroshima, mon amour, le texte et le film, de travailler sur la rêverie du cinéma. Et donc, il y a des caméras qui filment en direct et tout ça et tout ça.
On voit à Cannes en ce moment un film de René, Hiroshima mon amour. L'héroïne n'a pas de nom. Moi je m'appelle Emmanuel Riva. René a voulu faire un film d'amour situé à Hiroshima, c'est-à-dire dans le berceau de l'angoisse, où les gens revivent, enfin paraissent avoir oublié. En fait, nous n'avons pas plus oublié qu'eux.
Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien.
J'ai tout vu. Tout.
Cette machine-là, qui est Gramont, c'est pas une machine facile pour le public. C'est un théâtre qui est un peu éclaté. On le verra là dans les locaux. Hein. On est au milieu là, des jardiniers municipaux, du parc, des footballeurs d'à côté. On est loin. On est loin de la ville. Toi, tu as fait d'autres centres dramatiques. Certains sont beaucoup plus enchâssés dans l'urbain. C'est un handicap, c'est un atout.
C'est les deux. Hein. C'est ça le problème, en fait. C'est les deux. C'est-à-dire que, bah, comme vous pouvez le voir là, c'est très, très agréable d'être là, à l'écart. Une sorte de chose 18e siècle, non ? On est dans notre désert, là, à côté de la ville, ce qui nous permet de prendre un tout petit peu de recul sur la fébrilité urbaine. Et en même temps, y a pas ce putain de tram qui arrive jusque-là pour amener les spectateurs ici. C'est un vrai problème parce que du coup, le public ne vient que lorsqu'il est convié pour un spectacle, pour le soir, pour... Mais c'est comme quand sur ta Freebox, t'as 256 chaînes, ou je sais pas combien, j'en sais rien. Si la une était sur la 123, mmh. Elle serait beaucoup moins regardée. Mmh. Parce qu'il faut y aller, quoi. Il faut faire plus, et zapper toutes les autres chaînes. Voilà, donc c'est con, mais c'est ça. On n'est pas sur le chemin du public. Le public, il doit venir.
Valérie Bousquet, directrice des relations publiques.
Je pense quand même et que si on était en centre-ville, on aurait peut-être encore un autre public qui hésite à venir à Gramont. Je pense qu'il y a malheureusement encore un public qui hésite à venir à Gramont. C'est pour ça qu'on essaie de faire le plus possible de visites, de leur ouvrir les portes, de leur dire « mais venez voir ce qui s'y passe, venez assister à une répétition ». C'est pas toujours évident d'ouvrir des répétitions pour des spectacles, c'est pas toujours évident. Parce que les compagnies qu'on accueille, ils ont déjà répété, c'est créé, donc ils arrivent l'après-midi, jouent le soir. Mais quand on a la chance d'avoir des créations, par exemple comme celle avec Julien, ou celle avec Jean-Claude, où Julien va ouvrir ses répétitions, les gens tout d'un coup pénètrent dans notre domaine. Et du coup, ils ne deviennent plus des spectateurs anonymes. C'est-à-dire, ce n'est pas le spectateur qui prend sa place, il paye, il s'assoit, il s'en va. Tout d'un coup, il fait un peu partie de la famille théâtrale. Et je crois qu'au niveau des relations publiques, c'est important de le faire. On ne peut pas le faire tout le temps, ça c'est sûr. Mais le peu qu'on fait, je trouve que c'est assez ça les nourrit. Et du coup, ils découvrent, ils disent « Ah oui, mais c'est ça !» Et alors, ne parlons pas des jeunes, parce que alors, les jeunes... Comme il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais été au théâtre, quand ils arrivent ici, tout d'un coup, il y a « Ah, c'est ça le théâtre !» Et ils sont étonnés de voir une maison qui n'a pas de rideau rouge, qui n'a pas un côté un peu sacramentel comme ça et tout. Et là, tout d'un coup, ils découvrent des gens qui travaillent, des gens qui travaillent normalement, qui font un travail d'équipe et qui fabriquent le même bébé pour le même jour. Donc tout ça, c'est des approches petit à petit vers, pour renouveler le public, pour essayer de leur dire, mais vous savez, le théâtre, c'est formidable. Enfin, on essaye du moins.
Le rideau de théâtre est là, couleur du cœur, devant moi. Longuement, je le considère. Il est rouge. On dirait du sang sous des paupières baissées dans une morne et lourde pesanteur. La prunelle est creuse derrière. Mais dans cette prunelle, je veux incruster mon rêve et ta vie. Je jetterai dans cet œil creux la douleur et la fantaisie. J'y jetterai le cœur des autres, leurs passions jointes aux miennes, leurs espérances et les nôtres. Viens, nous allons mêler de tendresses anciennes pour raconter au monde un peu de son histoire. Nous dirons, c'est la vie cela, il faut nous croire. Moi, j'écrirai les mots, et toi, tu les diras.
Expliciter assez concrètement votre métier au quotidien.
Répondre au téléphone.
Oui, répondre très très souvent au téléphone. Avant de rencontrer le public, bien sûr, le téléphone est très utile puisque on prend contact avec les gens. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, notamment sur les spectacles, à qui on a besoin de raconter un petit peu ce qui va se passer, parce que vous connaissez notre brochure, elle est très bien, mais les gens ont besoin qu'on leur explique encore, surtout quand ils ne connaissent pas le nom du metteur en scène ou même l'œuvre. Tout le monde n'est pas censé connaître Shakespeare par cœur ou Duras. Hein. Voilà. Donc c'est un gros travail. Je dis que c'est un travail de fourmi parce que vous savez que le public, chaque année, il faut le regagner puisque d'abord la saison n'est pas la même. Il faut à nouveau chercher d'autres endroits, d'autres structures. Moi, je m'occupe également du service éducatif avec un professeur. Donc, c'est à nouveau des élèves, aller dans les lycées et faire le plus possible de rencontres. Parce que je crois beaucoup, la brochure est formidable, mais je crois beaucoup à la rencontre entre personnes. Moi, j'adore ça, j'adore aller dans les classes, j'adore aller dans les structures, parler des spectacles. Parce que en dehors de ce qui est écrit dans la brochure, je peux leur raconter des petites anecdotes sur le metteur en scène ou sur l'œuvre elle-même, qui fait que ça les éclaire sur ce qu'ils vont aller voir. Je pense que c'est très très important. Avec les classes, on ne peut pas se rater. Il faut vraiment que les élèves soient heureux au spectacle, qu'ils découvrent quelque chose. Et en plus, quand on a la chance d'avoir une saison comme cette année, c'est-à-dire que Phèdre ou les Justes sont au programme, automatiquement, aussi bien d'ailleurs les professeurs que les parents d'élèves aussi sont très très heureux. Donc je parle des jeunes et des adultes dans ces cas-là.
Est-ce que le nerf de la guerre, vraiment en termes de relations publiques, justement, ce sont ces jeunes personnes qui constituent évidemment le public de demain ?
Moi, je le crois. Je le crois très fortement. Je pense que là, il y a des saisons où particulièrement, on sait qu'il y aura beaucoup de jeunes. Cette année, c'est particulier. Je pense que si ça va être la dernière année de Jean-Claude Fall, je pense que cette année, la saison est très très bien équilibrée. Comment ne pas être encore ébloui, c'est mon cas, parle l'alexandrin racinien et comment ne pas être en adoration devant l'écriture de Duras ou de Camus. Et je pense que les jeunes sont très sensibles à ça. Les jeunes qui lisent beaucoup de BD, qui regardent Internet, qui ont besoin de ces textes fondateurs qui font leur richesse maintenant et qui vont faire leur richesse plus tard. Je ne pense, bien sûr, on peut très bien aller au théâtre quand on est jeune et ne plus y aller après. Mais mon espoir, c'est que justement, ils continuent à aller au théâtre après si on les a charmés, s'ils ont été heureux. Moi, je connais des élèves qui n'étaient jamais venus au théâtre, qui tout d'un coup ont une vraie révélation. Donc ça, c'est des petits points gagnés chaque jour. Et personnellement, moi, j'en suis très fière. J'adore ce que je fais.
Est-ce que vous êtes encore surpris, justement, par le type de réaction que le public... Et le type de réflexion que le public peut justement mettre en place.
Oui, il y a quelquefois comme ça des choses qui nous émeuvent beaucoup dans le discours entre le spectateur et le créateur, je crois. Je crois que c'est aussi la beauté du théâtre, c'est-à-dire que la personne qui va réagir devant une pièce de théâtre, dans son émotion, avec son énergie propre, tout d'un coup va pouvoir dire des choses au metteur en scène, au comédien. Et ça, on l'a eu cette année. Sur certains spectacles, tout d'un coup, par exemple pour la pièce que nous avons eue l'année dernière, Vers toi, terre promise, les gens ont eu une réelle émotion dans toutes leurs questions quand ils ont posé des questions à Charles Torgemann et au comédien. Et tout d'un coup, on se dit, ben ça a marché. Voilà, ça a marché. Et moi, dans ces cas-là, ben, je suis très très contente. J'ai encore une espèce de joie enfantine à voir les gens sortir de la salle et me dire, ben, on n'a pas travaillé pour rien. Parce que bien sûr, c'est tout un travail d'équipe, hein, je ne suis pas toute seule. J'ai Sandrine Morel avec moi, il y a Béatrice aussi, qui est Béatrice Dumoulin, donc on est une équipe. Et je trouve que c'est formidable de se dire, ben voilà, on n'a pas travaillé pour rien. Le public qui sort est content. Il a passé un moment merveilleux au théâtre.
Quelle triangulation se crée entre communication, relations publiques, relations presse ? Est-ce qu'il y a vraiment des liens permanents qui s'auto-alimentent ?
Oui, d'abord, c'est un même service, le service de la communication.
Claudine Arignon, attachée de presse, coordinatrice de Ça parle Pépette.
Alors effectivement, après, on a des axes différents. Moi, je m'adresserai plus particulièrement à la presse, l'équipe des relations publiques au public. Il y a aussi Sophie Pujadas qui fait la communication, c'est-à-dire qui travaille sur les outils. Hein? Voilà. Donc moi, souvent, je travaille en amont et je fabrique à partir de ce que donnent les compagnies qu'on va accueillir ou les artistes, les outils que vont donner les artistes qui vont être en création. Bon, je vais fabriquer avec mon collègue Florian Bosque, on va fabriquer un dossier de presse, voilà, qui va partir en amont des créations, très en amont. Et puis après, le service des relations publiques s'appuie sur ce dossier et va l'enrichir ou va le tronquer entre guillemets, pour en faire un outil qui sera adapté à un public qui n'a pas autant d'informations, qui n'a pas autant de, voilà, qui, oui. Donc qui n'aura pas, qui voilà, auquel on va s'adresser différemment. Si on s'adresse à des journalistes qui sont spécialisés dans la culture, hein, si c'est leur domaine de prédilection, il est évident qu'ils auront une culture, une connaissance particulière, donc ils auront amassé un certain nombre d'informations qui vont leur permettre de savoir. Voilà, quand on parle de bon, alors les classiques, c'est quelque chose qui est dans la mémoire d'un peu tout le monde, parce que à l'école, déjà, on prend connaissance des grands classiques, donc Phèdre, Racine, Shakespeare, on en a entendu parler. Mais après, l'histoire des approches de ces auteurs dans l'histoire du théâtre, liée à l'histoire du théâtre, ça, c'est quelque chose que n'a pas forcément le spectateur. Voilà. Et là, c'est le travail de Valérie Bousquet, de Sandrine Morel au niveau des associations, de Béatrice. Voilà, c'est ce travail-là qui va faire que justement, on va donner des clés, on va donner des informations qui vont permettre d'ouvrir un peu, et de mieux comprendre et certainement aussi, surtout, de mieux apprécier la proposition artistique qui va découler du projet. Voilà. Alors, il y a peu de différences. On travaille quand même avec les mêmes outils et surtout, on n'invente rien. C'est-à-dire que Valérie va aller chercher des informations, elle, de son côté, parce qu'elle va fouiller, elle va faire un travail de documentation. Mais on s'appuie, en ce qui concerne la relation presse, beaucoup sur ce que nous donnent les artistes et ce qu'ont envie de dire les artistes sur l'œuvre sur laquelle, sur le texte, sur le projet sur lequel ils sont en train de travailler. On n'invente pas et on est des passeurs.
Backstage.
Donc Jean-Claude Fall, directeur des lieux, depuis combien d'années ?
Je suis arrivé en fait ici en juillet 97, donc c'est ma 13e saison, voilà, au Théâtre des 13 Vents. J'aurais fait 13 saisons au Théâtre des 13 Vents. C'est un bon chiffre, non ?
Un deuxième CDN dans votre vie ?
Oui. J'ai dirigé le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, qui est toujours un centre dramatique national. Et auparavant, ce que les gens savent pas forcément, c'est que j'ai créé complètement de toutes pièces, puisque ça n'existait pas. C'est vraiment un concept que j'ai inventé. Le théâtre de la Bastille, qui se trouve rue de la Roquette, qui est un des hauts lieux européens de l'émergence, de tout ce qui s'invente dans le théâtre, la danse, la musique contemporaine et les arts plastiques aussi, puisque j'avais fait aussi pas mal d'expos, etc. Donc voilà, c'est un grand parcours. C'est un très grand et long parcours, puisque ça fera 28 ans que je dirige des théâtres.
Vous étiez vraiment totalement dans l'univers parisien. Ça a dû être au tout début un choc de franchir le périphérique pour descendre quelques 800 ou 700 kilomètres en dessous.
C'était un choc, bien sûr, mais c'est ce que je voulais. C'était très délibéré, très intentionnel, c'était très réfléchi de ma part.
Et une vraie logique de la décentralisation, en se disant, voilà, il y a une part de d'excellence qu'il faut aussi amener un peu partout.
Je dirais même, non, c'est pas exactement ça, parce qu'il n'y avait pas du tout de parisianisme chez moi. C'était pas amener aux provinciaux la vraie grande culture parisienne. Au contraire, je suis venu chercher ici le vrai public et le vrai théâtre. Pour moi, le théâtre parisien, que je connaissais bien, puisque depuis 1972, j'étais dedans jusqu'en 97, ça fait beaucoup de temps que j'ai passé dans le théâtre parisien. Le théâtre parisien, pour moi, était très factice, quelque chose de factice là-dedans qui me déplaisait profondément, parce que le public du théâtre parisien, le public du théâtre public parisien, est avant tout un public professionnel ou paraprofessionnel ou autour des professionnels. Pour arriver jusqu'au vrai public, il faut attendre les dernières d'un spectacle, et encore pas toujours. Et où il faudrait jouer les spectacles pendant 2-3 mois, ce qui n'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est un vrai. Pour moi, c'était un vrai problème. D'autant plus que les spectacles que je fais sont des spectacles qui s'adressent essentiellement, j'allais dire presque uniquement au public. C'est pas du tout des spectacles qui s'adressent aux professionnels, aux médias. Je fais pas des coups. Il y a aucune politique du coup médiatique ou du coup professionnel dans mon travail. C'est un travail à la fois très orgueilleux, mais surtout très humble. Voilà, donc j'avais besoin de cette relation au public et j'étais sûr que cette relation au public, j'allais la trouver en région, en province, parce que les spectacles en tournée m'avaient fait penser ça. Les spectacles que j'ai pu créer à Lyon, à Montpellier aussi d'ailleurs, et ailleurs, me faisaient penser que c'était là que j'allais trouver mon équilibre artistique, l'équilibre artistique entre mon travail et un vrai public. Et c'est ce qui s'est passé, voilà. Je dois dire... De manière absolument évidente, du premier au dernier jour, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai trouvé ma place à Montpellier avec ce public.
Quand justement vous êtes arrivé, vous succédiez à Jacques Nichet, il y a quoi quand on arrive comme ça dans un territoire qu'on connaît moins et avec quelqu'un qui a marqué aussi de son saut une histoire du théâtre, il y a quoi? Il y a une envie de se démarquer d'entrée de jeu où on se dit on va aller dans un prolongement d'une action réalisée?
Beaucoup dans le prolongement d'une action réalisée. C'est-à-dire que il y avait eu un très gros travail de fait sur le public par Jacques Nichet et par l'équipe du Théâtre des 13 Vents, hein, autour de Valérie Bousquet en relations publiques et Claudine Arignon, etc. Et donc je voulais absolument m'appuyer là-dessus, même si quand je suis arrivé... Le théâtre était un peu en déshérence, c'est-à-dire que Jacques était un peu moins présent, du coup ça flottait un peu, la programmation était moins forte, et du coup il y avait eu une très grosse hémorragie du public, et le pari que je faisais, c'était que j'ai fait d'entrée, d'ailleurs c'était dans mon projet, c'était de doubler le nombre d'abonnés et le public en 2 ans, ce qu'on a fait en 1 an. Donc... voilà, je voulais à la fois m'inscrire dans la continuité et surtout retrouver le fil, renouer le fil avec le public. Par ailleurs, il y a eu le Festival Enfantillage qui a été là aussi un apport énorme en termes de relations avec le public. Ça a marqué les esprits et puis c'est un temps fort aujourd'hui pour toute la région. Hein.
Vous savez, les gens avaient la vie dure, mais quand il s'agissait de s'amuser, alors voyez qu'il y a des empereurs aussi. Et aussi, voyez, moi je me rappelle pas. Et ils allaient pas au diable Vauvert comme vous. Sinon la vallée, oui. Sinon la vallée, oui. Je suis des joyeux pour jouer des tours. Parce que c'est bon, il aime bien s'amuser. Sinon la vallée, oui. Dans la vallée, petite ferme, bien souvent, et c'était tous des petites fermes. Dans une ferme, bien souvent, et c'était tous des petites fermes. Si dans la vallée,
I've been here. Moonshiner. 17 long years I've spent all my money on whiskey and beer. Some holler and set up my steel. And if whiskey don't kill me, then I don't know what will.
Sinon la vallée, sinon la vallée, dans une ferme, bien sûr. Souvent, et c'était tous les. Vous savez, les gens avaient l'habitude, mais quand ils savaient, c'était ça. Sinon, la vallée. Sinon, la vallée. Eh, à déjà. Eh, à déjà. Eh, à déjà. Je suis des joyeux pour jouer des tours.
samba room and drink with my friends, where women can't follow and see what I spent. God bless them, pretty women. I wish it was mine. Their breezes sweet as the dew on the wine. Let me eat when I'm hungry. Let me drink when I'm dry. A few dollars when I'm hard up.
Bien souvent, et c'était tous des petites fermes. Et dans une ferme, bien petite ferme.
Jean-Claude Fall,
directeur
et metteur en scène.
On vous connaît aussi comme un personnage politique, c'est-à-dire que vous avez tenu des engagements politiques. Est-ce que vous pensez qu'au sein d'un centre dramatique national, est-ce qu'il y a un rôle un peu ressource ou en tout cas fédérateur face à tous les acteurs de la région? Et dans ce sens-là, ça légitime le fait de porter un engagement au niveau régional, national, municipal?
J'ai toujours été dans des formes d'engagement très claires. Hein. Je n'ai jamais caché ni mon appartenance à la gauche, ni mon engagement syndical, mon engagement pour cette profession, puisque j'ai été président du Syndéac. Je suis encore aujourd'hui dans le Conseil national du Syndéac. Je suis vice-président de la CID. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu cet engagement à la fois politique et syndical de ma part. Mais ce n'est pas tant en tant que directeur de Centre Dramatique National, c'est en tant qu'artiste, tout simplement. Mmh. Je pense qu'un artiste, par définition, il est engagé. C'est un citoyen qui parle à la cité. Prendre la parole en public, c'est une responsabilité politique que moi, j'ai toujours très clairement assumée. Voilà. Après, le rôle de fédérateur et d'impulseur de la vie du théâtre dans la région d'implantation du Centre Dramatique National, ça fait partie des missions du Centre Dramatique National. C'est écrit en toutes lettres dans les missions du Centre Dramatique National. C'est un rôle qu'il se doit de jouer. J'espère l'avoir joué au maximum. En tout cas, j'ai essayé de le jouer au maximum de mes forces, physiques, mais aussi de mes forces financières et techniques, puisqu'on a toujours été aux côtés des compagnies. Donc ce rôle-là est très important. Et là, on est dans le rôle d'un directeur de Centre Dramatique National. Je ne mélange pas complètement les deux choses. L'artiste est engagé, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, qu'il le sache ou non, il est engagé. Il est engagé à droite quand il ne dit rien, et il est engagé en général à gauche quand il dit quelque chose.
Est-ce que c'est naturel pour un artiste, comme vous l'êtes, d'être aussi un chef d'entreprise, finalement?
C'est obligé, voilà. Mais je pense que, contrairement à ce qu'on croit, les metteurs en scène sont des gens qui savent très bien compter, en général. Parce qu'ils sont obligés de très bien compter, parce qu'ils sont obligés de faire avec peu, beaucoup. Et je pense que ce sont les meilleurs gestionnaires, contrairement aussi à ce qu'on croit. Pour une raison simple, c'est qu'avec ce qu'ils ont, ils veulent absolument, c'est une volonté exacerbée, faire le plus d'artistique possible. Un gestionnaire fera toujours ce qu'il peut avec ce qu'il a. Un artiste fera toujours au-delà de ce qu'il peut. Alors ça, on peut le lui reprocher. Ça peut conduire à des désastres en termes de comptabilité s'il oublie de compter. Mais en même temps, ça impulse quelque chose d'une rage de créer qui lui fait faire des miracles. Voilà. Et les grandes institutions, à ma connaissance, celles qui ont marqué l'histoire, ont toujours eu à leur tête des artistes.
Mais en dessous de vous, on en a vu, il y a des gestionnaires d'un secteur particulier, ils nous ont tous dit la même chose aujourd'hui. On ne dit pas non à ce que veut l'artiste, on essaye juste de le rendre possible. Donc ils sont dans cette contrainte, dans cette capacité à se dépasser.
Bien sûr, bien sûr. Non mais je veux dire, moi comme gestionnaire, je suis à peu près dans cette même situation. Mais par exemple, comme artiste, mon souhait, mon désir, c'est qu'il y ait le plus d'artistes possible à l'intérieur de cette maison. Et donc, je vais faire des économies de manière drastique. On va économiser sous après sous pour pouvoir faire un spectacle de plus.
Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir passé autant de temps à la tête de grands lieux, est-ce que votre pratique artistique est dissociable de la direction d'un lieu?
Ça, c'est ce que je vais savoir. Je vais en prendre la mesure maintenant. Ce que je sais, c'est que voilà, il y a des choses très claires dans ma vie, comme des lignes de conduite. Par exemple, on m'a toujours dit, les institutions transforment les hommes, fais attention, ne rentre pas dans l'institution, tu vas perdre l'artiste en toi.
L'homme ne peut pas transformer.
J'ai toujours pensé que c'était le contraire, que c'était les hommes qui faisaient les institutions et non pas les institutions qui faisaient les hommes, et que ceux qui disent que les institutions font les hommes sont ceux qui sont bien contents d'être, j'allais dire, déplacés par l'institution, puisqu'en fait, ils voulaient changer de place. Moi, je ne voulais pas changer de place et j'ai changé les institutions. En tout cas, j'ai impulsé dans les institutions ce que je voulais, moi, qu'elles soient. Que ce soit le théâtre de la Bastille, le théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, ou même ici. Donc, j'ai été toujours très clair par rapport à ça. L'institution, je ne crois pas qu'elle ait changé l'artiste. Par ailleurs, j'ai toujours refusé le calibrage médiatico-professionnel des spectacles. C'est-à-dire que j'ai toujours refusé de travailler avec les grandes stars, machin, de faire des grands décors qui coûtent des milliers et des cents. J'ai toujours été très très précis là-dessus. Je n'ai jamais voulu que mes décors coûtent cher. Donc tous les décors que j'ai faits coûtent très peu d'argent. Mes distributions sont faites sur le principe de troupe et pas du tout sur le principe d'engagement de telle ou telle personnalité parce que ça va remplir ma salle. Donc j'espère que tout ça fait que voilà, l'artiste a réussi à garder son cap à lui, ce que je crois. Et donc c'est ce que je mesurerai quand je ne serai plus à la tête d'une institution, ce qui ne va pas tarder. Et voilà, après, c'est une aventure plus confortable pour un artiste que de savoir qu'il n'a pas de problème pour trouver de la production, il n'a pas de problème pour trouver un lieu dans lequel jouer ses spectacles, et il n'a pas non plus de problème, ou pas tellement de problème, pour rencontrer un public qui soit, comme ça, non pas forcé, mais qui soit mis devant, qui soit confronté à ses spectacles. Donc, tout ça, c'est d'autres choses que je vais mesurer, voilà.
Comment vous envisagez justement cet avenir ? Avec appréhension ou un peu d'excitation ?
Ce serait juste et seulement excitant si il n'y avait pas trop tellement d'aléas. Les aléas sont que aujourd'hui, le ministère de la Culture nous dit à tous, hein, à tous les anciens directeurs de centres dramatiques nationaux, il n'y a plus d'argent, il faut que vous fassiez 100. Et on me propose aujourd'hui la même subvention que celle que j'avais en 1982. À peu près, non, j'exagère pas, hein. Alors je leur dis, mais c'est pas possible, c'est insupportable que vous me proposiez la même chose que ce que j'avais en 1982. Vous vous rendez bien compte que les temps ont changé, que les salaires ont changé, que les coûts ont changé, et que ce que je pouvais faire avec cet argent en 1982, je pourrais certainement pas le faire en 2010 ou 2011 ou 2012. Donc je leur demande d'être raisonnable et d'être juste et d'être équitable. De ce point de vue-là, pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas écouté, même si je vois bien qu'ils aimeraient pouvoir, mais qu'ils ne peuvent pas, ou il y a ceux qui ne veulent pas, il y a ceux qui ne peuvent pas. Bon, c'est un objet de débat qui, lui, m'inquiète. Voilà. Ça, c'est un endroit qui m'inquiète, dans la mesure où je ne peux pas me retrouver dans la position d'une jeune compagnie, de celle que j'avais quand j'avais 30 balais, où je faisais les spectacles. J'ai toujours payé tout le monde, hein, mais en payant un peu avec des élastiques, en me débrouillant un peu avec les acédiques, en essayant voilà, de faire un truc sans rien, sans décor, mais inventivité maximale, etc. J'ai toujours été dans cette perspective, mais je ne suis pas exactement au même endroit professionnel. Et je ne peux pas demander à des acteurs qui m'accompagnent d'être payés 1000 euros par mois. Je veux dire, ça n'est pas envisageable. Je ne veux pas faire ça. Je trouve que c'est injuste pour les acteurs et pour moi. Donc, je leur demande d'avoir une situation qui me permette d'être un vrai interlocuteur de production envers des institutions avec lesquelles j'ai le désir, le souhait de travailler, et qui ont, elles aussi, le doux désir, le souhait de travailler avec moi. C'est l'endroit de frottement. Pour le reste, j'allais dire, il n'y a que de l'excitation. N'être plus qu'un artiste peut être vraiment un moment pour moi de respiration et de rebond tout à fait formidable. C'est ce que j'attends et c'est ce que j'espère et c'est ce que j'ai envie de vivre.
Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière. Seul, moi qui ai tout choisi dans ma vie, je
je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille. Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière, je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène devant.
J'ai adoré travailler avec Jean-Claude Fall pendant toutes ces années parce que sa vision du théâtre, c'était tout à fait la mienne. Et puis on s'est bien entendu, je crois. Les départs, moi, ça me rend toujours un peu malade. J'ai horreur de ça, surtout que c'est très compliqué. C'est une tranche de vie qui part. J'aime pas ça du tout. Non, j'aime pas ça. Par contre, on peut tout attendre d'un nouveau directeur qui va en effet donner une impulsion nouvelle. Vous savez, il va très vite se rendre compte, par exemple, du côté du public, quel public il a. Il va très vite s'en rendre compte, hein. Encore une fois, d'un public fidèle, de gens qui ont envie d'aller au théâtre, des jeunes, un public jeune. Vous savez, je crois qu'on est... Parmi tous les centres dramatiques, nous sommes un des rares à avoir autant de pourcentage de jeunes. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Le public de demain, ce que vous me disiez tout à l'heure. Donc je ne sais pas, il faut tout attendre. Ça peut être... Ouais, il faut espérer. Chaque jour est un autre jour.
Certes, ça fait 18 ans que je travaille avec Jean-Claude Fall, mais les projets ont été deux projets différents. Le projet du TGP et le projet au Théâtre des 13 Vents sont deux projets menés artistiquement par la même personne, mais très différents. Donc moi, j'ai deux visions de deux types de gestion d'entreprise différentes, avec le même directeur. J'attends la troisième expérience avec impatience. Me jeter dans le bain qui va m'obliger à penser différemment, qui va m'obliger à avoir... une autre vision du théâtre, parce que forcément le metteur en scène qui va arriver, le ou la artiste, devrait dire, parce que c'est pas forcément un metteur en scène, qui va arriver, va nous contraindre tous à changer nos méthodes de travail, à changer notre point de vue vis-à-vis de ce qu'on fait au quotidien. Et moi, je suis dans les starting blocks, prêt à démarrer sur une nouvelle aventure.
Bon, c'est vrai quand même, on se dit aussi, on va, bon, c'est peut-être pas très sympathique, mais on va connaître autre chose, quoi, parce que c'est comme une croisière qu'on ferait avec quelqu'un, quoi. Bon, on va changer d'équipage un peu, enfin de skipper ou quelque chose comme ça. Ouais, et puis bon, c'est vrai qu'on est très dépendant de plein de choses, hein, au niveau du théâtre. L'atelier, il a failli disparaître. J'espère qu'il va continuer. Je pense que comme on sert à quelque chose, tant qu'on sert à quelque chose, si l'opéra trouve de l'intérêt à avoir un atelier, je pense qu'on va rester. Si le théâtre trouve... Moi, je sais que l'équipe technique, mes camarades, ça, ils aiment bien avoir l'atelier, ils viennent. Et c'est vrai, c'est un rapport direct vis-à-vis de la production. Donc je pense que pour eux, c'est plus intéressant que de commander un décor à l'extérieur. Non, je suis assez serein, mais bon.
J'attends de savoir quel est le projet. Et je crois qu'on est dans cette maison tous... dans cette attente-là et prêt à redémarrer sur une aventure qui continue. Parce qu'il y aura continuité de l'aventure, avec des changements, des évolutions, mais il y aura continuité. Ce centre dramatique, il existe aujourd'hui, il a une image artistique qui est donnée par Jean Cottefal, mais il existait déjà avec Nichet, il existait déjà avec Savary, et là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tout ce passé.
Backstage, une émission réalisée et produite par François Barrez et Vincent Cavaroc.